Texas Blues. Matt Oaks, Texas Blues. Matt Oaks, Texas Blues. Honky tonk knives and country blues. Matt Oaks, Texas Blues. Matt Oaks, Texas Blues.
Chanson d'actualité périmée que j'ai écrite au moment où le baron en pain s'est pendu dans un coffre de voiture pour protester contre l'extradition d'Aldo Moro, qu'on avait retrouvé, comme chacun sait, dont on avait retrouvé la dépouille mortelle dans le cercueil de Charlie Chaplin. Olé ! Et ça s'appelle Ode à Hans-Martin Schleyer et ça a pour sous-titre Les terroristes.
Parlez donc pas tant de quelques terroristes, sont si peu nombreux. Ceux qui sont pas sous terre ont les yeux tellement tristes, le sourire si peureux. Ceux qui sont pas en tôle ont peur que la police soit bientôt sur eux. Ils se feront crever par des poulets fascistes qu'on ne peuple avec eux. Ayez donc pas si peur de quelques terroristes, ces misérables gueux font rarement péter les bidules anarchistes qu'ils trimballent avec eux. Les cadavres alignés sur le bord de la piste, le plus souvent c'est eux. Prenez donc plutôt garde aux automobilistes, ceux-là sont plus nerveux. À titre indicatif, en Suisse en 1980, la voiture 2000 morts, la drogue 12, les terroristes, point. Ayez quelques respect pour tous ces terroristes, ils sont assez généreux. Ils meurent pour des idées sur les impérialistes, c'est assez courageux. Quand ils tuent, ça profite à d'affreux journalistes et des canaris d'eux. Si tout ça c'était pas du mot pour les fascistes, je serais avec eux. Courez pas tous après ces quelques terroristes, soyez pas si haineux. Quand les poulets viendront vous en donner la liste, jetez la devant eux. S'ils disent que chacun doit être sur la...
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, pile poil, nous sommes le mercredi 13 septembre 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, donc tout est parfait. C'est un plaisir de vous retrouver en direct avec après ce mois de rediffusion le mois d'août, et merci de nous rejoindre sur ces ondes. Alors Au fil des pages, c'est une émission qui est proposée par des passionnés du livre et de la lecture. aujourd'hui Frédéric, Agnès, Dominique par téléphone et moi-même. Et nous avons aujourd'hui comme invité Monique Pinson-Charlot pour parler de son livre intitulé « Le méprisant de la République » paru aux éditions textuelles. Le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, de 17h à 18h30, vous avez la possibilité de nous écouter. Alors, Frédéric, nous n'avons donc pas d'annonce, puisque nous reprenons nos activités. On aura bientôt à Publico des projections de films, des débats. Et je vous rappelle simplement que vous pouvez toujours nous écrire à Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et vous écrivez à émission au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, nous allons présenter un livre. Alors, initialement, c'était Marie qui devait nous le présenter, mais comme elle est en train de faire la queue en ce moment à Nanterre pour s'inscrire sur un diplôme de géographie, eh bien, je vais présenter son texte. Un livre qui s'appelle « La Cité, une anthropologie photographique ». Ensuite, un petit livre de Thierry Maricourt et Nathalie Dieterlet, Frérot Frangin, Hôtel Bestiole, Hôtel Bagnole, aux éditions Calico. Dernier rendez-vous avec la Lady de Matteo Garcia Elizondo, c'est Agnès qui s'y colle, édition Maurice Nadeau, c'est ça. Dialogue avec Monique Pinson-Charlot pour son livre, comme je viens de l'évoquer. Un moment d'histoire, je vais présenter un livre édité par Science Marxiste. C'est pas fréquent qu'on cite Science Marxiste ici. Et là, c'est un livre très intéressant sur le bénévolat anarchiste et socialiste au pluriel temps du choléra en Italie au 19e siècle. On aura un livre « Les larmes de Chalamov » présenté par notre ami Dominique par téléphone et j'annoncerai une réunion où vous rencontrerez l'auteur Célie Bejarano, Justa ou la force du destin. C'est le groupe Salvador Segui qui organise cette rencontre à la librairie Publico. Je dirai un mot, parce qu'on ne peut pas faire autrement, sur le monde libertaire de l'été 2023 qui était consacré aux littératures anarchistes. Alors, premier temps de l'émission. Marie donc devait nous parler d'un livre sur une banlieue nord de Paris, Sarcelles, au nom quasi mythique. Et je me souviens d'ailleurs d'un couple de vieux bourgeois du 16e qui s'était fait vacciner contre le Covid et qui, horreur malheur, avait dû aller jusqu'à Sarcelles pour trouver un endroit pour se faire vacciner. Et là, ils avaient connu l'effroi de rencontrer un monde inconnu. On m'avait dit, mais vous vous rendez compte, il y a des non-soviétiques. Bah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez, c'était communiste, hein. Mais alors, donc, que s'est-il, en quoi consiste ce livre ? Eh bien, en fait, c'est un essai ethnophotographique d'un sociologue, Camillo León Quijano, d'origine colombienne, alors je n'ai pas l'accent espagnol, qui a fait une immersion de 3 ans, de 2015 à 2018, au cœur des grands ensembles de la ville de Sarcelles, située au nord-est de la région parisienne, et il fait état de sa démarche anthropologique, photographique, mais aussi poétique, c'est-à-dire qu'il va explorer les phénomènes sociaux et culturels sous un angle à la fois créatif et réflexif. Et de cette manière, on peut lire différents témoignages de Sarcelloises et de Sarcellois de tous âges, agrémentés par des clichés photographiques en noir et blanc. C'est vrai que le livre est très beau, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le noir et blanc, c'est intéressant. Ces témoignages sont essentiels pour la démarche de l'auteur, car ils démontrent la façon dont ses habitants appréhendent leur ville en fonction de leur âge, de leurs origines, de leur situation sociale. Et ce même auteur s'appuie sur l'histoire de Sarcelles, une histoire politique, sociale, culturelle. Les grands ensembles ont vu le jour dans les années 60. On avait ce mouvement, je ne sais pas si Monique, tu t'en rappelles, Sarcelles était un nom d'oiseau, c'était un slogan pour dénoncer la manière dont on avait détruit en quelque sorte l'environnement. C'était assez étonnant, c'était un contexte social particulièrement précaire pour des milliers de Français qui vivaient dans des logements insalubres ou trop exigus. Eh oui, la reconstruction a pris du temps. C'est jusque dans les années 50-60, moi je suis d'une banlieue sud, on a construit en urgence parce qu'on avait des gens qui vivaient à 4 ou 5 dans des chambres d'hôtel et dont le père était ouvrier chez Renault. C'est, autrement dit, il avait de l'argent quand même. Et les architectes, urbanistes, politiques de l'époque, en fait, ont expérimenté à Sarcelles un projet massif de construction de logements à la fabrication bon marché, perçu comme très novateur à cette époque, car il prônait la modernité et le vivre ensemble. C'est là que sont nées les fameuses cités dortoirs, qui vont financer par la Caisse des dépôts, va devenir le plus grand bailleur de France. Ça fait donc 50 ans plus tard, les grands ensembles sarcellois, ils ont mal vieilli. Et ils sont représentatifs de la problématique française des cités délabrées, miteuses, surpeuplées, en tout cas considérées comme telles, abritant toutes sortes de trafics et de voyous. Et oui, le stéréotype de la racaille banlieusarde a malheureusement la vie dure, notamment à Sarcelles, où le taux de chômage est très élevé et le communautarisme de plus en plus ancré dans les quartiers. À une autre occasion, dans une autre émission, je parlerai d'un roman noir qui se déroule dans un quartier, le quartier Belle de Mai, à Marseille, la cité Félix Piat, qui est quand même assez célèbre pour abriter différents problèmes et différents réseaux. Eh bien, là, nous sommes en région parisienne, mais ce vivre ensemble dont pouvaient se targuer les acteurs des grands ensembles était-il finalement trop visionnaire? Alors, il y aura des émissions, il y aura Marie nous conseille de regarder Sarcellopolis, produit par France Télévisions et diffusé en 2015 et que l'on peut retrouver aujourd'hui sur YouTube. De nombreux habitants de ces cités sarcelloises décrivaient un multiculturalisme très important, pas moins de 80 nationalités différentes qui cohabitaient en bonne harmonie au sein des grands ensembles, avec une vie de quartier très dynamique et solidaire. Il y avait un réseau associatif, il y avait un réseau politique, et on voit petit à petit comment les choses vont évoluer. Et pour en revenir au travail de l'auteur, son idée était de faire partager les différents témoignages et les observations qu'il a pu recueillir et permettre à travers l'image, à travers la photo, d'interroger le réel en donnant un visage à ces cités. Et voilà pourquoi cette démarche sociologique s'accorde parfaitement aux multiples clichés qui l'illustrent et qui permettent d'aller au-delà, évidemment, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir c'est cette vie dure et ces images que l'on attribue assez facilement aux cités et aux cités du nord de la région parisienne. Et évidemment, on peut faire un lien sans souci, et je trouve que le livre est tout à fait intéressant, avec l'actualité et les émeutes qui sont survenues après la mort du jeune Naël, et montrer aussi comment il y a une instrumentalisation, comment il y a, de part et d'autre, comment il y a des idéologies de droite et d'extrême droite qui reviennent en permanence pour dénoncer les gens qui y habitent. Alors, que retenir de cet ouvrage? Que Sarcelles n'est pas une ville en proie à la décrépitude, contrairement aux affirmations et aux illusions perdues. Sarcelles est vivante et continue à résister à certains ravages que peut causer le temps, c'est sûr, et elle vit à travers ses habitants qui eux-mêmes vivent à travers elle. Sarcelles représente cette France diversifiée qui dérange tant, mais qui lutte à travers différents champs d'action notamment des initiatives citoyennes, qui lui donnent une mémoire populaire qui s'effacerait sûrement bien vite si la gentrification tant redoutée des quartiers sarcellois venait à s'implanter. Je rappelle le titre du livre, La Cité, une anthropologie photographique de Camillo León Quijano aux éditions EHESS. Et c'est une publication de 2023. Frédéric, on avait trouvé une chanson de Paul Calfon, Sarcelles.
Sous-chef de cabinet, grimpant la hiérarchie de l'escatologie. Les mieux là qu'à l'hospice, mieux là qu'en seigneurie. Même les lieux où l'on pisse ont leur catégorie. Elle rêve en épitaphe de finir sa carrière au sous-sol du Falstaff, chauffée même en hiver. Madame Pipi, t'étais la plus jolie de toutes les filles du café chez Baby Lee. Madame Pipi.
Bon, manifestement, on a un souci avec Sarcelles de Paul Calfon. Je voulais, avant de poursuivre, et notamment la présentation d'un livre sur la Lady, me semble-t-il, je voulais rappeler le décès, parce que je pense que beaucoup de monde est au courant, le décès de François Gèze, éditeur, qui est décédé récemment à l'âge de 75 ans. Il a été pendant plus de 30 ans responsable des éditions La Découverte, qui avait pris la relève des éditions Maspero. François Gèze, eh bien, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Monique, ça rappelle des souvenirs, François Gèze ?
Pour moi, c'est énorme.
Pourquoi ?
C'est énorme, d'abord parce qu'il a été notre éditeur.
Ouais.
Dès le début des années 2000, il a pris contact avec nous pour la petite collection Repères. On a fait Sociologie de la bourgeoisie, Sociologie de Paris. Ensuite, c'est lui qui a eu l'idée du Président des riches, qui a été notre seul best-seller.
C'est lui qui a trouvé le titre,
oui,
je
c'est
crois.
Lui qui a trouvé le titre. Oui, c'est nous qui avons fait le boulot quand même.
Oui, quand même. Hein, c'est,
hein. Non, ça ne faut pas. Mais il a été un conseiller parfait. C'était un éditeur exceptionnel, franchement. J'ai eu beaucoup de peine.
Et donc, enfin, les éditions Les Belles Lettres sortent à titre posthume le 17 octobre, son livre, et bien nous en reparlerons dès que nous l'aurons reçu. Et on parlera donc dans le courant du mois de novembre. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'édition française. Je rappelle aussi la réouverture de Violette & Co, qui est une librairie féministe et lesbienne, qui rouvre ses portes en ce moment, à Paris, et c'est au 52 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement. Et cette maison d'édition a été longtemps une institution parisienne pour la sphère féministe. Et donc aujourd'hui, elle rouvre. Et c'est un espace de 145 mètres carrés sur deux niveaux, avec un petit café. Il y aura des débats, des événements associatifs, des clubs de lecture. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes parisienne, parisien, ou si vous passez sur Paris, d'aller voir et d'aller prendre contact et d'aller évidemment acheter des livres. C'est 52 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement. Toujours dans le monde comment dirais-je, de la des librairies, des tristes moments, c'est-à-dire que la librairie de Libertalia à Montreuil a été agressée, la librairie La Brèche, pas loin de, enfin dans le 12e arrondissement, la librairie du NPA a été taguée, une autre librairie à Montreuil, à côté de comment La Parole Errante a aussi été agressée. Enfin bref, il y a de la part de l'extrême droite une volonté aujourd'hui de dégrader les lieux d'expression et les lieux de diffusion de la culture et du livre. Donc nous, ici, dans Au fil des pages, sur Radio Libertaire, on ne pouvait pas faire autrement que d'en parler et de dénoncer ces agressions. Frédéric, qu'en est-il ? Bon, alors, poursuivons dans ce cas. J'aurais voulu vous parler d'un autre livre qui concerne les animaux. Je sais qu'Agnès aime beaucoup les animaux, aime beaucoup protéger particulièrement les chats. Et qu'en est-il ? Eh bien, nous allons parler là d'un petit livre. Alors c'est Thierry Maricourt qui, aux éditions Le Calico, a l'habitude de travailler avec un dessinateur. Alors il avait commencé avec Tardy et puis avec Zo. Et là, pour sa dernière parution, c'est Nathalie Dieterlé, qui va illustrer ses propos. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des livres qui s'adressent aux enfants ou aux jeunes, et qui en fait s'adressent aux adultes. Frérot Frangin, ce sont deux jeunes, un gamin et un plus grand, qui poursuivent leurs aventures avec des échanges épistolaires au gré de charmants petits bouquins. Deux frères, l'un quasi-adulte, l'autre pré-ado, et ils se font part de leur expérience de la vie. Ainsi, Frangin a connu la prison, Frérot l'hôpital, chacun soutenant l'autre. Et il y a un subtil mélange de naïveté et de lucidité sur la vie. Et la publication que nous avons en main s'appelle « Hôtel Bestiole, Hôtel Bagnole ». L'auteur découvre des lettres, c'est toujours un peu dans la même logique, des missives jaunies à l'intérieur, j'en saisis une poignée, veillais à ne pas les mélanger, je les découvrais, ou plutôt je les redécouvrais. Est-ce que l'auteur ne serait pas l'un ou l'autre ? Vous lirez, sinon c'est pas drôle. Je dépliais la première avec un peu de nervosité, et l'aventure commence. Frérot trouve dans l'escalier de son immeuble le chat familier de chaque palier. Il est mort, de la bave plein le museau, empoisonné sans aucun doute. Frangin, lui, a dégoté du travail depuis 2 jours chez un garagiste un peu louche et arnaqueur. Il est payé des clopinettes. Voilà, vraiment, c'est vraiment du live, tout ça. Les lettres contiennent une part de jeu de mots, mais aussi de chagrin, la mort du chat. Petit chat est mort. Les conditions de travail au garage, certains clients odieux, d'autres qui se font avoir. Et rapidement, au fil des pages, s'égrènent des leçons sur le respect des animaux, de l'éléphant à la fourmi, des femmes et des hommes. Et l'on retrouvera l'auteur de l'assassinat du chat, car évidemment, le chat ne s'est pas empoisonné tout seul. Et au garage, les malversations dont sont victimes les clients du garagiste sont découvertes. Pas de belles conclusions sur la vie, un côté un peu conte de fées, mais qui donne tout de même à réfléchir. Et lisez, tenez, c'est quasiment la conclusion. Mon paquet de lettres en main, j'ai songé que ces deux-là, Frérot et Frangin, ne manquaient pas une occasion de rigoler et que j'avais beaucoup de chance d'être l'un d'eux. Lundi, c'est une autre chose, le début d'une nouvelle semaine, d'une nouvelle histoire. On en reparlera. Eh bien, nous aussi, on attend la suite avec impatience. Et évidemment, on compte sur toi, Thierry. Thierry Maricourt, Nathalie Dieterlé, Frangin Frérot, Hôtel Bestiole, Hôtel Bagnole, aux éditions Le Calico, en 2022. Et j'en profite pour signaler que nous recevrons Thierry Maricourt début octobre pour son livre consacré à la jeunesse de Michel Ragon, livre qu'il a publié aux éditions L'Échappée, tout récemment. Alors, Frédéric, on va maintenant, moi je vais demander à Agnès, puisqu'on a parlé des chats, on va demander à Agnès de parler d'autres sur un autre thème, et un livre qu'on a beaucoup aimé, assez curieux, un livre paru aux éditions Maurice Nadeau. On aime bien, dans Au fil des pages, les éditions Maurice Nadeau, qui nous offre des romans qui donnent toujours à réfléchir. Et celui-là est assez curieux, ce dernier rendez-vous avec la Lady. Alors Agnès, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un livre écrit par Mateo Garcia Elizondo, qui est un auteur mexicain et qui en fait est le petit-fils de deux célèbres écrivains, Gabriel Garcia Lorca et Salvador Elizondo. En fait, il évoque dans ce livre sa recherche sur l'univers des junkies et l'interpelle dès les premières pages sur un sujet fort d'actualité, le pouvoir de choisir sa mort. Cela se passe au Mexique, à Zapotal, un village au fin fond du Mexique, en lisière de la jungle, une population qui vit principalement des scieries et de l'exploitation du bois dans les forêts, dans des haciendas peu confortables et mystérieuses. Les villageois sont méfiants et craignent les étrangers. Ils vivent un peu hors du temps, ils semblent inaccessibles. Beaucoup de ces hommes et femmes se retrouvent à la nuit dans des bars sombres, comme le Rincón de Juan, où ils s'enivrent et se battent autour de prostituées et d'âmes perdues qui ne rêvent que de quitter ce lieu. Le texte nous plonge dans les méandres de la conscience d'un jeune junkie, appelé par ses amis disparus Brindy. Brindy s'installe dans un triste meublé, ce qu'il y a de plus rudimentaire, avec un carnet d'écriture et les doses de drogue qu'il lui faut pour arriver à en finir. Il souhaite faire part de l'importance qu'a eue la Lady dans sa vie et pourquoi il veut en finir avec la vie. La Lady est le nom qu'il donne à l'héroïne qu'il s'injecte et qu'il compare à une attraction amoureuse fatale. Je cite « La seule qui ne t'abandonne jamais, c'est la Lady. Elle est toujours prête à te recevoir. C'est la seule qui t'apporte quelque chose qui ressemble à de l'amour, à une étreinte si forte que tu en as même parfois du mal à respirer. » Tout au long de la lecture de ce roman, on ne peut qu'être témoin d'une recherche intime et dure de l'emprise de la drogue. Malgré sa volonté à passer de l'autre côté, il résiste longtemps et note sur un cahier les perceptions bien-être reçues par les faits de l'héroïne jusqu'au manque insupportable et ingérable. Ce passage est troublant, page 68, où avec un certain humour, il se prend pour un nécro-romancier. Je cite... L'esprit souffre trop et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Notre corps est incapable de s'exprimer ou alors il n'y a plus personne à qui raconter ce qui nous arrive. Personne ne nous écoute. Et si les gens par miracle nous prêtent attention, ils pensent qu'on est fou. Un don pareil n'existe que le temps de cet état limite et transitoire qui nous sépare du vide. Mais bien vite, on sera mort, nous aussi. Ce sont des moments de conscience et de souvenirs qui le retiennent. Un difficile travail de mémoire, plein d'amertume, mais aussi d'inertie. Une fatalité qu'il souhaite prendre le temps de revoir. Le roman se déroule comme un voyage, fait de pensées hallucinatoires ou réelles tout emmêlées, où se côtoient vivants et morts ses amis, son amoureux, son chien, son père... dans une passivité totale devant toutes ces violences, comme dans un coma. Il y a beaucoup d'émotions dans ce roman, des sensations comme devant des tableaux de Jérôme Bosch. Un livre puissant qui dérange et que je vous invite donc à lire. Je vous rappelle le titre, Dernier rendez-vous avec la Lady, écrit par Matteo Garcia Elizondo aux éditions Maurice Nadeau.
Très bien, merci Agnès. Frédéric, est-ce que nous pouvons passer La beauté de Charles Baudelaire, interprété par Léo Ferré? Ne fais pas le coup que ça encore... Bon, alors Frédéric est en train de jouer avec ses manettes. Ça va?
Non.
Non, ça va pas. Bon, bah écoutez, je crois que question musique, ça sera un peu râpé pour cette émission. L'ingénieur en chef est en train de baisser, là. On va passer au deuxième temps de l'émission. Rencontre. Et on a le plaisir, et ça c'est bien, c'est d'être en direct, parce que parfois on a des collègues qui ne peuvent pas venir et qui donc nous appellent, mais là au moins on est en direct. Et alors Monique Pinson-Charlot, Monique, merci d'avoir répondu à notre proposition d'échange sur votre livre. J'ai beaucoup aimé, déjà rien que le titre, Le méprisant de la République, celui-là c'est vous qui l'avez trouvé?
On l'avait déjà mentionné dans le livre sur le président des ultra-riches. On avait déjà mis comme sous-titre le méprisant de la République, chronique du mépris d'Emmanuel Macron. On avait déjà bien centré sur le mépris, mais là c'est une grande affiche du Parti communiste français qui a été omniprésente dans toutes les manifestations
sur les retraites.
Oui, sur les retraites. Oui. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était vraiment un très bon titre.
D'accord. Alors, il est paru ce livre tout récemment aux éditions textuelles. Alors, pour vous présenter rapidement, donc vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS, spécialiste des grandes fortunes françaises, de la grande bourgeoisie, et vos ouvrages à vous deux, avec Michel Pinson, sur cette grande bourgeoisie, sont célébrissimes. Bah, je citerai, on en parlait tout à l'heure, la sociologie de la bourgeoisie aux éditions La Découverte, collection Repère.
Oui.
Un livre aussi que j'aime bien, Paris, 15 promenades sociologiques à la petite bibliothèque Payot.
Ah oui, là, vous n'êtes pas tout seul à l'aimer. D'abord, nous, on a aimé le faire.
Ouais.
Et puis, il a eu beaucoup de succès.
Oui, hein, c'est... Voilà, c'est... Bon. Et puis, Notre vie chez les riches, paru en 2021, c'est vos mémoires d'un couple de sociologues. Alors, vous, votre attention est attirée par le président des riches, en 2010, Nicolas Sarkozy, puis le président des ultra-riches, chez Emmanuel Macron en 2019. Entre les deux, on a eu le président normal, c'est ça?
Oui, dans c'était la violence des riches, il y avait tout un chapitre sur le président normal.
Voilà. Et puis, vous relevez déjà dans le sous-titre du livre sur Macron, le sous-titre, la notion de mépris, et vous renforcez votre analyse avec le méprisant de la République. Alors, est-ce qu'il ne serait pas le représentant institutionnel le plus caricatural de la classe dominante?
Ah non, il n'est pas caricatural. Pour moi, il est juste parfait. Hein, c'est vraiment le fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée. Et c'est simplement que si on n'a pas la chance, comme j'ai eu la chance avec Michel, de suivre l'évolution de la violence de classe dans les rapports d'exploitation et de domination depuis 1983, que nous nous sommes mis à travailler sur la classe dominante. 1983, c'est le tournant de la rigueur, c'est la trahison des socialistes, qui retournent complètement leur veste pour développer la financiarisation généralisée du capitalisme, cette phase qu'on appelle le néolibéralisme, et qui s'est littéralement enflammée avec la chute de l'URSS, la fin de la guerre froide, et le capitalisme à l'échelle du monde. Donc on a connu, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui ont eu la chance de vivre ce qu'on a vécu. Quand vous avez un objet de recherche dont vous décidez au début des années 80 d'en faire votre autoroute à deux, avec le statut privilégié de chercheur au CNRS, où on est quand même payé à 100% pour faire de la recherche, donc c'est quand même des conditions de travail et de disposition intellectuelle tout à fait géniales. et qu'on a la chance, là j'ai 77 ans, Michel n'est plus là, mais si vous voulez, de pouvoir encore continuer à observer son objet de recherche dans un tourbillon de l'évolution du capitalisme absolument incroyable. Et aujourd'hui, on peut dire que le dérèglement climatique dont on est frappé tous les jours avec ce qui se passe en Libye, le tremblement de terre, les canicules à répétition et les feux géants, et le bouquet final du feu d'artifice du capitalisme, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Mais alors, lui, ce méprisant de la République, son discours condescendant à l'égard des gens, cette mise en accusation de ceux qui ne s'en sortent pas, l'ignorance des conditions de vie qu'il diffuse lui, mais qu'il insuffle à tout son gouvernement, quand on voit le ministre de l'Éducation nationale, etc., qui, d'après, apparemment, va rentrer pour la première fois dans une école publique, puisqu'avant, il était à l'école alsacienne, oui, c'est ça. Oui. Donc, prochainement, il va découvrir l'école publique. Bon, on se moque un peu, mais pas que. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, ce mépris, vous le relevez bien, d'ailleurs, en permanence.
C'est-à-dire que ça ne devrait pas vous étonner. Et ce petit livre est là pour que, justement, ça ne vous étonne plus. Parce que ce mépris s'intègre parfaitement à la panoplie des différentes formes de violence de la classe dominante vis-à-vis des classes moyennes et des classes populaires. C'est-à-dire que, comme si vous voulez, avec la financiarisation généralisée, c'est-à-dire vous avez parlé de l'enseignement, en parlant de l'école alsacienne, donc il y a en France un secteur énorme du privé et qui est quand même aidé financièrement par de l'argent public, c'est-à-dire l'État est non seulement il y a les privatisations, mais l'État est évidé par toutes sortes de soutiens publics pour qu'il y ait le maximum, que l'État soit le plus appauvri possible et que les actionnaires de tout poil soient servis sur un plateau d'argent chaque jour. Donc cette violence avec la financiarisation généralisée, avec la mondialisation, je l'ai déjà dit, et avec le chaos climatique, vous pouvez comprendre que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ne fait plus dans la dentelle. Le capitalisme s'est radicalisé et il faut qu'il y ait ce mépris pour empêcher que les gens modestes, que les membres des classes populaires et moyennes n'en viennent pas à contester le système capitaliste qui est en bout de course.
Et vous avez tout au long de votre ouvrage toute une série de citations, de slogans sur les manifestations, notamment au moment des retraites. Et c'est intéressant parce que ces slogans trouvent leur écho dans votre discours et vice-versa. Vous appuyez vraiment sur les manifs, on a l'impression que vous êtes dans la manif en train de dire « Vous voyez, c'est pour ça que ça se passe comme ça, c'est pour ça qu'il y a tel et tel problème. »
Oui, c'est vrai qu'il y a une correspondance, une harmonie entre notre sociologie et notamment les Gilets jaunes aussi. On avait déjà pas mal publié sur les Gilets jaunes. Il y a une harmonie entre notre sociologie et les derniers mouvements sociaux, et notamment pour cette réforme la réforme de la retraite, avec le recul de l'âge de 62 à 64 ans, il y avait une telle détermination, une telle mobilisation dès le premier acte, dès la première manifestation le 19 janvier 2023, que c'est pour ça que je me suis dit, tu vas suivre ce mouvement d'une façon très sérieuse et très serrée en participant à toutes les manifestations pour que tu aies là un objet dont éventuellement, j'avais pas encore le contact avec Textuel qui m'a fait cette proposition, mais dans ma petite tête, j'ai toujours plusieurs manuscrits qui fonctionnent en même temps de façon parallèle, au cas où. Et là, je me suis dit, ça sera très intéressant de montrer le fonctionnement de l'oligarchie aujourd'hui, dans la phase si radicalisée du système capitaliste, à propos d'un problème précis contre lequel les trois quarts de la population active étaient contre. Et cette réforme des retraites, ce recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, cette amputation de l'avenir, notamment des ouvriers qui ont quand même 6 ans d'espérance de vie de moins que les cadres, une amputation de l'avenir qui a à voir avec, que j'ai tricoté avec le dérèglement climatique, qui a à voir avec l'amputation de l'avenir collectivement partagé qui nous concerne en tout cas tous, il y a un espèce de sujet anthropologique, ethnologique, sociologique pour traiter la retraite, cette réforme des retraites, comme un enjeu existentiel. Et comme il y avait en plus, cerise sur le gâteau, une unité syndicale et politique, c'était juste un peu le rêve de ma vie, quoi, qui était là.
Alors, bon, on connaît le résultat, mais alors je reviens aussi sur les slogans qui figuraient sur les banderoles. Il y en a un qui me paraît particulièrement d'actualité, c'est celui-ci: qui sème le mépris récolte la colère. C'est une réflexion en lien avec l'actualité, ça, peut-être.
Oui, bien sûr. Mais qui sème le mépris peut aussi semer la sidération, l'impuissance. Mais là, non. Le mépris a pris, si je puis dire, de telles proportions. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, tricoter ce mépris à propos de cette réforme des retraites, où ça a été très mobilisé, articulé avec Parcoursup pour les jeunes, avec amputation de l'avenir, avec le dérèglement climatique et avec, je ne sais plus ce que j'ai dit d'autre, qui ampute l'avenir, ça a fait boum. C'est tout, c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de millionnaires aujourd'hui en France. Les dividendes des patrons du CAC 40 explosent, tandis que la misère se généralise. Il y a aujourd'hui je ne me rappelle plus exactement le chiffre du Secours populaire. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même plus faire 3 repas par jour.
Et il y a aussi une anxiété, vous le relevez d'ailleurs, cette notion d'anxiété des femmes et des hommes, de celles et ceux qui ne sont rien. Ceux qui restent au bord, enfin, il y a eu toute une série d'expressions, là. Il y a ceux, ils n'ont qu'à traverser la rue, enfin. Comment traduisez-vous cette anxiété? Vous l'avez vue dans des réunions, dans des contacts avec des gens en tant que sociologue?
Oui, elle est vraiment, elle est omniprésente. Il y a un sentiment d'humiliation, il y a un sentiment d'écrasement. Il y a un sentiment, mais qu'est-ce que ma pauvre femme, quand je suis accostée dans la rue, puis qu'on me demande de parler un petit peu, on me prend pour une folle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Il faut, c'est le fatalisme, quoi, qui l'emporte. Mais là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclic. Et c'est pourquoi je pense que nous n'avons pas perdu la bataille. Nous l'avons gagnée. Nous l'avons gagnée. Alors, pas concrètement. Parce que c'est eux qui l'ont perdu, parce qu'ils ont, ils ont pas truqué, mais ça a été une loi qui est passée au forceps, en instrumentalisant tout ce qui pouvait être instrumentalisé dans la Constitution de 1958 au service du président de la République. Et puis ça a été contre les trois quarts de la population active. Donc c'est vraiment, ils n'ont pas gagné.
On avait eu le plaisir d'ailleurs de recevoir une juriste Fontaine qui a sorti un livre chez Amsterdam. Ouais. On l'a reçu fin juin et elle démonte le Conseil. Enfin, elle démonte au sens où elle décrit en tant que juriste, en tant que constitutionnaliste et de prof de droit public, elle démonte bien le processus du Conseil constitutionnel qui est tout sauf un juge, mais qui est quelqu'un qui arrange les affaires, quoi.
Le Conseil constitutionnel, c'est vraiment, il fait partie de cette oligarchie, c'est des camarades de classe, c'est une cooptation. Ils travaillent sous le sceau du secret, c'est-à-dire que toutes les délibérations internes, on n'a absolument pas le droit de savoir qu'est-ce qui s'est dit. Et par ailleurs, ils se sont arrangés pour avoir une dérogation, pour ne pas avoir à déclarer leur patrimoine à la haute autorité pour la transparence.
Oui, il y a ça aussi.
Je sais pas ce que ça veut dire. Sur le patrimoine.
Oui, sur le patrimoine, voilà. Oui, tout à fait. Mais On parle aussi de rentabilité du système et vous dites que le management néolibéral détruit la solidarité par une mise en concurrence des salariés. Expliquez-nous et en quoi le méprisant est-il concerné si les gens sont en concurrence?
Il est concerné indirectement comme partie prenante d'une classe sociale de type oligarchique, c'est-à-dire une classe qui s'accapare absolument toutes les richesses et tous les pouvoirs. Ils sont au sommet de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. On n'est plus du temps où Bourdieu nous enseignait l'autonomie des champs, l'autonomie du champ universitaire, l'autonomie du champ, vous avez parlé du logement, de la politique urbaine, etc. Voilà, et maintenant, non, tout est soumis à la loi du profit, tout est soumis au compte immature de la main invisible du marché. Voilà, alors je ne sais plus quelle était votre question.
Le management néolibéral détruit la solidarité par une mise en concurrence des salariés.
C'est-à-dire que comme c'est le profit à court terme qui est le seul objectif, le premier objectif, du coup, ça détruit tout ce qui est humain, tout ce qui est de la solidarité, le monde. Je sais pas. Moi, j'ai été hospitalisée aux urgences il y a une semaine. J'étais vraiment ahurie de comment fonctionnent les urgences un dimanche après-midi, et ne parlons pas du dimanche soir tard. Donc, rien n'est cohérent, c'est-à-dire que les infirmières n'ont aucune satisfaction dans leur travail, les malades n'ont aucune satisfaction parce que les infirmières ne sont pas assez nombreuses pour les soigner. C'est la pagaille, c'est une incohérence totale que l'on retrouve avec ce management néolibéral qui enlève le sens et la dignité. C'est-à-dire que ce moment-là du système capitaliste que nous traversons broie vraiment toute forme d'humanité, broie toutes les formes de solidarité, broie toutes les formes de dignité. Et la seule dignité qu'on a, c'est là quand on se retrouve à essayer d'expliquer, de comprendre toute la mécanique du moteur. Nous, notre sociologie, on n'a pas de capot. On montre directement comment fonctionne le moteur.
Et aussi, la solidarité qui existait, alors on ne va pas faire le coup de « c'était tellement mieux avant », mais ce que Marie expliquait dans son livre, dans le commentaire de son livre sur Sarcelles, où il y avait un réseau associatif, politique, il y avait les militants, il y avait, bon, avec les qualités et les défauts, c'est pas le problème, enfin, il y avait des réseaux qui existaient de solidarité. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a une mise en concurrence au sein de l'entreprise, au sein de toutes les organisations sociétales. On sent que la solidarité est plus difficile à construire.
Voilà, et c'est pour ça, c'est à cause de cette incohérence que le travail est détruit de manière totalement maîtrisée d'un certain côté et totalement incohérente pour ceux qui le subissent, que cette réforme des retraites a pris une telle ampleur et une telle détermination. Les travailleurs autrefois, par exemple quand Michel travaillait sur les ouvriers des Ardennes, ce qu'il mettait en valeur avec un capitalisme paternaliste totalement différent au début des années 80, c'était la chanson de Bernard Lavilliers, La main d'or, je veux travailler encore, la dignité, tandis que là ce qui est bafoué, c'est notre dignité. Il y a un processus dans le mépris, il y a un processus de déshumanisation. Voilà.
Et où ce que j'observe aussi d'une certaine manière, je travaille dans l'administration, et dans les années 80, j'entendais des gens, des fonctionnaires, qui me disaient « Ah, moi, c'est dommage que je parte à la retraite parce que j'avais encore, il y avait tel projet, il y avait telle chose, il y avait... » Et là, on me dit « Ah, écoutez, là, moi, monsieur Pian, pas un jour de plus. » C'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une démotivation parce que les gens se sentent plus considérés, les gens se sentent plus portés, et donc on laisse aller, mais c'est pas la faute, c'est pas la faute des gens, parce que là, on est toujours dans une logique de dire, c'est la faute de. Si vous trouvez pas du travail, c'est de votre faute. Mmh. Si vos enfants font... parce qu'on ne va pas non plus dire que c'est très bien d'avoir foutu le feu à des commerces, etc. Mais si les enfants foutent le feu à des commerces, c'est la faute aux parents. Il y a un côté père fouettard aussi. C'est toujours la faute. C'est toujours votre faute. Vous avez qu'à agir. Mais oui, fait l'État ?
Oui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mmh. C'est comme dans les cours de récréation.
Oui.
Et là, surtout, ce qu'il faut, c'est que les gens ne voient pas que le problème, il est au cœur du capitalisme. Mmh. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que ce sont des gens, des bourgeois, des nobles, enfin des gens issus de la classe dominante, qui par exemple naissent à Neuilly avec des titres de propriété dans la bouche, à la naissance, et qui vont transmettre ces titres de propriété de génération en génération, c'est-à-dire on a des dynasties familiales qui s'approprient toutes les richesses et tous les pouvoirs de génération en génération, et qui exploitent au sens marxiste du terme,
oui,
et qui dominent avec le système théorique de Pierre Bourdieu, puisque nous on articule toujours le marxisme, l'exploitation et la domination telle que Bourdieu l'a décrite, notamment à travers la domination symbolique. Et là, on aboutit à un écrasement de ceux qui n'ont que leur force de travail à proposer sur le marché.
Donc, ce méprisant de la République est bien le représentant d'une classe sociale qui l'a fait élire.
Ah ben, il a...
Hein, faut se rappeler quand même 2017, où ce type était inconnu en 2015,
oui,
et a émergé, porté... Et on est quand même quelques-uns à savoir comment une campagne électorale s'organise et comment un personnage se crée. Or là, il s'est créé en même pas 2 ans.
Oui, il a été créé.
Oui.
Et c'est là que justement on peut s'interroger quand même sur la démocratie qui est pourtant toujours revendiquée par ceux qui sont les plus haut placés. La démocratie, elle est quand même vraiment bafouée de multiples manières.
Mmh.
Alors, d'une part, par la propagande idéologique, par le fait que les médias, alors je ne parle pas ici de vous, bien entendu, que les médias dominants ne font que très rarement des critiques au président de la République,
oui,
hein, que c'est vraiment l'idéologie dominante qui est déversée sur les médias tous azimuts, qu'aujourd'hui ce sont des milliardaires qui possèdent, selon Acrimed, 90% des plus grands médias. Les instituts de sondage appartiennent aussi à des milliardaires.
Mmh.
Et enfin, le vote blanc n'est toujours pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. 54% d'abstention au second tour des présidentielles ou des législatives. Et en tout cas, en plus, Macron, il a été élu par défaut.
Complètement.
Systématiquement.
Oui, donc, deux fois.
Les deux fois, voilà.
Deux fois. Tout à fait. Alors, vous faites référence dans votre livre aussi à la Commune de Paris. Alors, dans cette émission-là, la nôtre, qui est animée par des membres du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste, ça nous plaît bien. Mais pour vous, quelle est l'actualité de cet événement de 1871 ?
C'est parce que moi je l'ai dit, c'était dans ma petite tête. Hein. J'ai pas vu tellement de références, c'est pas dans le livre en tout cas. J'y ai pensé parce que pour moi c'était.
Oui, ça apparaît.
C'était la première révolution ouvrière du peuple pour le peuple. Et je crois me souvenir que Lénine, quand il a créé les soviets en 2017, il a fait
en
des.
En 1917.
En 1917. Merci. Il pensait à la Commune de Paris.
Tout à fait.
Et puis après, tout ça a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place. Et puis pour la Commune de Paris, ça s'est vraiment mal terminé. Parce que tout ce qui fait peur au capital et aux capitalistes, hein, parce qu'il faut toujours mettre de la chair et du sang sur le squelette de l'exploitation, ça se passe pas bien.
Et surtout, ça c'est dans un bain de sang, évidemment, 15 000 Parisiens à peu près massacrés, les déportés, etc. etc. Mais on peut dire aussi que cette violence et ce mépris qu'avaient les Versaillais, les propos qu'on peut reprendre, y compris chez les écrivains, même Zola, hein, même Zola, qu'on présente comme étant l'écrivain populaire, etc., avait un profond mépris à l'égard de ces Versaillais, de ces communards, et de se dire que finalement, aujourd'hui, cette même bourgeoisie a le même mépris. Je me rappelle de quand il y avait des manifestations, j'entendais des gens qui disaient « qu'est-ce qu'ils nous font chier, encore cela, de quoi ils se mêlent, de que ils ont qu'à travailler ». Enfin, il y avait des propos d'une violence qui était très, très forte.
Et puis, d'ailleurs, je vous précise qu'Emmanuel Macron a refusé d'aller célébrer le 150e anniversaire de la Commune.
Il a considéré que la République était à Versailles. C'est tout un symbole.
Merci.
C'est tout un symbole. Voilà. Et alors, les mots du méprisant aussi sont intéressants. Il y a une reprise des termes de l'extrême droite. On parle notamment de la décivilisation. Mmh. Alors là, c'est Renaud Camus, le spécialiste de l'extrême droite, mais le promoteur de l'extrême droite. Et puis aussi
la théorie du grand remplacement.
Oui, la notion de décivilisation, c'est la logique de Camus, c'est le grand remplacement. Et puis il y a un vol des mots. Vous parlez de ça, vous dites il y a un vol des mots, les mots sont utilisés, mais la réalité que recouvrent ces mots est autre. Ben, derrière la démocratie, etc.
Oui, c'est-à-dire que tout ça, c'est une panoplie sémantique pour empêcher de comprendre la clarté de l'exploitation capitaliste. Je veux dire, c'est un monde qui est enfantin, qui est simple à expliquer. Il y a des propriétaires qui peuvent exploiter aujourd'hui toutes les formes du vivant, piller toutes les formes du vivant, et c'est tout. Et donc ça, ce truc basique, hein, Bourdieu disait toujours, ils sont mobilisés pour éviter, pour masquer, son expression c'était masquer l'arbitraire de la domination et de l'exploitation. Et c'est tout, l'histoire est toute simple. Mmh. Ils sont mobilisés tout le temps, en permanence, en anticipant toutes les évolutions du système capitaliste pour que l'impensable soit accepté. Mmh. Que l'impensable, aujourd'hui, avec ce qui se passe, un chaos généralisé, chaos social, chaos politique, chaos climatique, qu'est-ce qui va nous rester ?
Et puis, vous évoquiez tout à l'heure le rôle des médias. Moi, il y a un événement qui m'a marqué là récemment, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby. Alors, je ne suis pas du tout un fanatique du sport en général, d'ailleurs, sauf la randonnée. Et des sifflements dont le président de la République a fait l'objet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les grands médias, on n'en a pas parlé. Mmh. Même un journal comme Le Monde, finalement, qui en a parlé ? Moi, je l'ai découvert, parce que je n'ai pas regardé, évidemment, ce truc-là, mais je l'ai découvert en allant sur les réseaux sociaux et en voyant que c'était le journal L'Équipe qui parlait des sifflements qui ont retenti dans le Stade de France. C'est intéressant de voir comment les médias cachent des choses. Et en ne parlant pas,
ça
le fait n'existe pas.
Voilà. On l'a dit ensemble.
Ah, voilà, tout à fait. Et c'est une grande bienveillance de la presse, quand même.
Ah ben, c'est plus qu'une bienveillance. Écoutez, je ferai référence à l'excellente expression, je crois que c'est Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde.
Oui.
Hein, en référence à Paul Nizan avec les chiens de garde, avec les philosophes.
Tout à fait. Alors, il y a une phrase aussi qui m'a intéressé. Les pouvoirs et les contre-pouvoirs concentrés entre les mains de la même classe sociale échappent ainsi au contrôle des citoyens. Mmh. Ça, c'est vous qui l'écrivez. Mmh. Et alors, sigille la démocratie, il n'y a plus de démocratie, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
S'unir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je conclurai volontiers en disant faire comme eux. Parce que finalement, si nous avons rencontré le communisme, Michel et moi, qu'on croyait évidemment trouver dans la classe ouvrière, nous l'avons trouvé, à notre grande surprise, dans la classe dominante. Alors, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins nombreux, qu'ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs, c'est donc beaucoup plus facile. Mais n'empêche que c'est une façon une classe sociale au sens marxiste du terme. Mmh. Une classe en soi, avec quand même des modes de vie, des niveaux de vie, le cumul des différentes formes de richesse économique, sociale, culturelle et symbolique très très forte. Nous, il y a vraiment plus qu'un fossé qui nous sépare de ces familles-là, de ces dynasties familiales. Alors, je ne sais plus où j'allais.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à, c'est ça, alors je à continue, ce communisme oui, c'est ça. De classe dominante.
Oui, c'est ça. Et donc, chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qu'il a envie de faire. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'être toujours au top et d'être un parfait représentant de sa classe.
Ah oui, ça, hein, vous l'avez très bien raconté.
Et avec des instances de coordination, ouais, à l'échelle du monde, à l'échelle de la France et à l'échelle des quartiers. Le Bois de Boulogne a 20 associations de défense du Bois de Boulogne, et puis il y en a une 21e, l'association de coordination des associations du Bois de Boulogne.
Et ça, vous l'avez très bien raconté dans Notre vie chez les riches.
Voilà.
Ça, je m'en souviens bien. De la même manière que vous racontiez que vous étiez dans un coin quand vous étiez quand même invité, bon, ou supporté. On vous faisait bien comprendre quand même que vous n'étiez pas du même milieu, quoi.
Bah, je crois pas parce que comme on se présentait, on était en couple, qu'on était associé à la sociabilité mondaine, ce qui était décisif pour faire le travail anthropologique qu'on a pu faire. Non, honnêtement, ça s'est pas bien passé pour nous avec le président des riches. Merci François Gèze. voilà, à partir du moment où, à la retraite, on a pu intégrer dans notre analyse de la classe dominante le champ économique et le champ politique, puisqu'on n'avait plus de devoir de réserve, on sentait que ce n'était pas possible. Mmh. Et là, quand on l'a fait, ça a fait boum.
Oui.
Voilà.
Ouais. Alors, donc, je rappelle le titre de votre livre « Le méprisant de la République » paru aux éditions textuelles. Mmh. Mais franchement, vous ne pouvez pas, je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs, vous ne pouvez pas rater Sociologie de la bourgeoisie, collection Repère à la découverte. Vous ne pouvez pas rater, si vous voulez vous promener dans Paris, 15 promenades sociologiques chez la petite bibliothèque Payot et Notre vie chez les riches, vos mémoires. Et puis, il y en a tellement d'autres, mais bon, vous en avez écrit combien avec Michel?
Je pense qu'on ne doit pas être loin de 30. Enfin, entre, je n'arrive pas vraiment à compter, c'est comme les moutons, je me mélange au bout d'un moment, mais c'est entre 25 et 30. Oui.
D'accord. Est-ce que ça a marché, d'après toi, Frédéric, là, ce coup-ci? Est-ce qu'on devrait passer? On a quand même un morceau d'anthologie, là, non?
Emmanuel Macron, c'est un vrai président. Il fait jamais d'erreur. Il est très séduisant. C'est lui le mal alpha. Un exemple. Il est toujours sympa, il n'est jamais méprisant. C'est un demi-dieu. Ce sont ses vrais cheveux. Et si tu le critiques, on t'envoie.
Voilà, je crois quand même qu'après une demi-heure à avoir vraiment eu des propos très désagréables à l'égard de notre méprisant, eh bien, il fallait cette chanson, parce que vraiment, là, c'est l'hymne à la gloire de notre président. Évidemment, on est au second, quatrième, tout ce que vous voulez, degré. Je l'ai trouvé, cette chanson, et je la trouve absolument cocasse, on va dire ça comme ça. Bon, et alors je vous invite à aller la rechercher évidemment sur YouTube, et à ce moment-là vous avez en plus les images, et je vous laisse découvrir les images de la fin. Je ne les décris pas comme ça, vous irez chercher, c'est assez intéressant. Alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Commune de Paris, la Fédération anarchiste. Et puis, tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste. Saint-Francis, 145 rue Amelot. Et de temps en temps, nous avons des commentaires sur notre page Facebook, Au fil des pages, et sur la chronique des idées et des luttes, qui est une chronique que je tiens sur le site du Monde Libertaire. Troisième temps de l'émission, ce que j'appelle souvent varia, c'est-à-dire une manière de découvrir des ouvrages un peu comme chez les bouquinistes, en furetant dans les caisses, et puis on trouve quoi ? On trouve par exemple un livre sur un moment d'histoire qui s'appelle « Bénévolat anarchiste et socialiste au temps du choléra ». Et c'est sorti, c'est un collectif sous la direction de Moreau Paris, c'est sorti aux éditions Sciences Marxistes. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement, et si l'action militante correspondait aussi à un engagement personnel, humanitaire, envers des femmes et des hommes qui subissent l'injustice ? Et si l'anarchisme ne rendait pas évidente cette main tendue à qui souffre et se plaint, délaissé par les pouvoirs publics ? Les éditions Sciences Marxistes nous ont adressé récemment un petit opuscule, donc à ce titre évocateur, et je rappelle que le choléra est une maladie terrible qui détruit une personne en quelques jours, et que cette maladie a sévi en Europe à proximité des ports, et plus particulièrement à Marseille, Gênes, Naples, au XIXe siècle. Le journal Florentin, La Questione Sociale, sous l'influence d'Errico Malatesta, l'anarchiste, dénonce le laxisme des pouvoirs publics, déjà leur imprévoyance, en estimant que le système social engendre les maux dont souffre le peuple. Je cite Malatesta : « Nous soutenons que l'existence du choléra, tout comme son apparition en Europe et le milieu favorable à son développement qu'il trouve parmi nous, c'est la faute du système social actuel. » Ouais, il y a des moments un peu l'impression d'entendre notre amie Monique. Et donc cette faute du système social actuel. Alors l'auteur de l'introduction de l'ouvrage établit le lien avec la récente pandémie en estimant que les pouvoirs publics négligent d'intervenir ou oublient, une fois le mal passé, de prendre des mesures préventives efficaces. Et il insiste sur le fait que tout est lié au commerce et aux relations internationales. Il en est ainsi d'ailleurs des grandes pandémies comme la peste. Et là, je renvoie au numéro 509 et 510 de la revue L'Histoire, qui est de cet été, de l'été 2023. Et outre les causes liées aux échanges commerciaux, à l'urbanisme et à l'hygiène déplorable de certains quartiers non rénovés, eh bien, cela constitue clairement une autre source majeure. Appuyons-nous sur Naples, puisque c'est là que le livre porte. Pour qui a circulé encore aujourd'hui dans les ruelles de la basse ville, aux odeurs d'égouts tenaces? Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'aller voir. Bon, il y a des moments, au mois d'avril, déjà, on sent que c'est tenace. Alors, l'été, bon. Et il est aisé d'imaginer la situation avec les artisans en tout genre, les eaux usées stagnantes. Et Mathilde Serrao a publié au XIXe siècle un constat terrible dans son livre « Le ventre de Naples ». En 1884, au début de l'épidémie, les nantis se sont réfugiés à la campagne, en attendant une amélioration durable. C'est facile, pour qui connaît le secteur, c'est facile, on va à la campagne. Et cette attitude sera dénoncée avec vigueur par les anarchistes italiens. Comment peut-on laisser sans soin une ville de 496 000 habitants à cette époque ? À noter, un responsable d'hôpital désertera les lieux dont il a la charge. Il est responsable de l'hôpital, il y a des malades, je m'en vais. La ville connaîtra ainsi 9 vagues de choléra, la dernière en 1911 quand même. Nous sommes toujours en 1884. Près de 1000 bénévoles italiens du Nord, mais aussi des étrangers, des Britanniques, des Français, se mobilisent et constituent 10 groupes d'intervention avec en tête de pont Errico Malatesta, Luigi Fabri, qui limiteront temporairement l'épidémie entre le 4 et le 26 septembre 1884. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, on arrive à limiter l'épidémie. Et on retrouvera aussi des anarchistes mobilisés en Égypte en 1902 avec la même méthode, la solidarité, et on va en Égypte contre cette même maladie. Les relais politiques se manifestent. En France, par exemple, vous avez le Cri du Peuple, le célèbre journal de Jules Vallès, le Révolté à Marseille, l'Affamé. Et tirant l'enseignement de cette action, les anarchistes proclament dans un manifeste que la véritable cause du choléra est la misère, l'unique remède est la révolution sociale. L'État italien attendra la fin de cette crise, laissant les anarchistes intervenir, éventuellement mourir face aux personnes qui sont atteintes du choléra et qui eux-mêmes tombent malades. Ils vont attendre la fin de la crise pour arrêter et condamner à plusieurs années de prison ces mêmes anarchistes si dangereux, vous comprenez. Vous lirez, les textes sont tout à fait éclairants. Alors, pendant cette période, les institutions religieuses organisent des processions à destination de la Madone, de Saint-Janvier, vous savez, le sang de Saint-Janvier. Même si, il faut quand même le dire, ne moquons pas tant que ça, c'est que au sein des équipes de soins, vous retrouverez des religieuses et des anarchistes qui se côtoient et parfois meurent victimes du choléra. Nous relèverons parmi ces anarchistes victimes le Lombardo Rocco de Ligurie ou Florentine Lombard, une anarchiste de nationalité anglaise. L'internationalisme avait du sens. Et l'ouvrage se compose d'une introduction historique et sociologique qui permet d'apprécier l'intérêt des textes, c'est-à-dire que vous avez dans le dossier quantité de déclarations, d'extraits d'ouvrages, de manifestes, de facsimilés qui sont regroupés en deuxième partie, dont j'ai extrait quelques citations que j'ai mentionnées ci-dessus. Bon. Enfin, une série de biographies permet de retrouver des figures célèbres, telles que Malatesta, Fabri, Merlino, le communard Cipriani, et des militants qui mirent leurs actes, comme je disais, en conformité avec leur idéal de fraternité. Je rappelle le titre, Bénévolat anarchiste et socialiste au temps du choléra, collectif direction Moreau Paris, Sciences marxistes 2023. Frédéric, est-ce qu'il y avait une... Il y a du téléphone, non ? Non. Ok, très bien. Alors, poursuivons. Dominique va nous rejoindre à 18h15 et je voudrais vous parler d'un livre qui est un roman, et comme je dis souvent, les romans permettent peut-être avec plus de chaleur humaine, d'expliquer des situations là où le livre ou l'essai sociologique, historique, politique est un peu juridique, est un peu ennuyeux, alors que là, on y met du corps. Alors, je vais vous parler d'un livre, Justa ou la force du destin. Titre est un peu recherché, bon, et de Célie Bejarano aux éditions Yellow Concept. Alors en couverture, la célébrissime silhouette du soldat républicain immortalisé par Robert Capa, vous savez, celui qui tombe à la renverse, aux couleurs de l'Espagne républicaine, et en fond, comme une terre jaune, ocre, celle de l'Espagne, qui, et cette terre cache encore tant de secrets. Il y avait un film qui a été présenté il y a quelques années qui montrait qu'on n'avait pas encore trouvé toutes les fosses communes où avaient été enterrés les républicains espagnols après avoir été fusillés et torturés par les troupes franquistes. Et Justa ou La force du destin, c'est ce livre, c'est un titre intense comme la vie de cette famille d'Estramadour. Et c'est aussi intéressant parce que, comme me le disait un de nos amis qui va animer la réunion, la présentation dimanche après-midi vers les 16h à Publico, c'est rare d'avoir des témoignages de l'Estramadour. Évidemment, on a plein de témoignages sur la Catalogne, évidemment, mais c'est bien aussi de voir ce qui se passait dans cette région. Alors, de grands propriétaires terriens aux idées progressistes, oui, c'est cette famille, voilà. Et c'est une zone défavorisée, particulièrement arriérée et illettrée. Elle n'a guère connu la Renaissance, ni le siècle des Lumières. La vie est dure pour les paysans et les ouvriers agricoles. Et l'intérêt de l'ouvrage consiste déjà à nous conduire dans leur vie. Le charme d'un texte en français, agrémenté de mots espagnols et du dialecte, rend plus vivant, par exemple, le récit de la cueillette des olives ou la récolte du tabac. Vous avez des expressions à telle enseigne qu'on est obligé de nous en donner la traduction, mais ça fait un charme, on a l'impression d'entendre un accent. Bien, en tout cas, on le lit. Bon. Et le lecteur assiste à des révoltes des ouvriers agricoles, à la violence de la répression, aux rapports de classe extrêmement forts. Tiens, la CNT apparaît, la Confédération nationale des travailleurs apparaît. Elle sera interdite en 1923. Eh oui, mais vous voyez déjà la CNT, vous voyez les luttes sociales, vous voyez des prises de conscience. Et le livre nous permet, à travers les relations amoureuses, les tensions familiales, de vivre l'histoire de l'Espagne, les erreurs de la République, l'éparpillement des forces politiques, les masses analphabètes, la puissance de l'Église, de l'armée, des puissants. Nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous sentons évidemment le danger. Les menaces sont palpables, y compris au sein des familles. Évidemment, vous tournez les pages, mais nous, on connaît la fin déjà. On sait très bien que la République va mourir dans quelques pages. Bon, mais eux ne le savent pas et ils vivent encore cet espoir, un peu comme certains textes de Communard ou d'articles dans Le Cri du Peuple, par exemple, de Vallès, qui était le grand journal de la Commune de Paris, où jusqu'à la fin, les gens avaient l'illusion que ça va changer. Bon, eh bien non, vous le voyez au fur et à mesure de ces mêmes pages, et aussi, je le disais à l'instant, au sein des familles. Et c'est probablement le pire dans les guerres civiles de constater ces cassures et ces trahisons. Alors, je ne vous dis pas tout, mais au sein de la famille, ça va chauffer quand même sacrément. Ouais, bon, mais ces traîtres, ces gens qui vont révéler, ces gens qui vont finalement conduire des amis d'enfance à être assassinés. Et Augustine et Justa, un homme, une femme, lui du peuple, elle de cette aristocratie terrienne, connaissent la passion des engagements communs, la fidélité à leur cause politique. Ils sont, évidemment, c'est un couple. Et les débats sur l'engagement politique n'ont pas pris une ride. Il y a cette phrase terrible. Quand on veut se mêler de politique, il vaut mieux préalablement abandonner toutes ses illusions. Ah, c'est très fort, ça. On peut en discuter. Les discussions, ben justement, au sein de la CNT, gagnent en vigueur. C'est la grande question. Faut-il s'abstenir aux élections ou faut-il participer pour permettre la victoire du Frente Popular? Le Frente Popular l'emporte avec une fragilité institutionnelle, doublée d'institutions minées par l'extrême droite, à telle enseigne que, évidemment, le coup d'état militaire de Franco nous est connu. On sent bien que ça va arriver. On vivait de trahison en trahison au sein de l'armée, au sein de l'administration. Et puis après, c'est la guerre, les massacres, les crimes, les tortures. Même des journalistes et des écrivains de droite, comme Georges Bernanos, dans les cimetières sous la lune, dénonceront les exactions. Vous continuez au fil des pages. Les grandes batailles désespérées, Madrid, Teruel, Barcelone, la trahison des staliniens, le départ des brigades internationales, quelle humiliation! Oui, pour ceux qui ne se rappellent plus très bien ces événements, l'autrice nous prend par la main et nous suivons cette famille. Et en suivant cette famille, nous suivons l'histoire de l'Espagne et de cette guerre terrible. La guerre ne se termine pas en 1939. Encore une phrase terrible. L'ombre noire du franquisme s'abattit sur l'Espagne, la plongeant dans les ténèbres et la terreur pendant près de 40 ans. Et oui, on oublie aussi, et ça c'est parmi les pages les plus intéressantes et peu connues, pour le dire, celle des maquis et de la résistance pendant la guerre. Il y avait en Espagne des résistants, des républicains résistants, qui croyaient qu'après Hitler et Mussolini, ce serait Franco, et donc qu'on allait pouvoir enfin libérer l'Europe de ses dictatures. Eh bien non. Eh bien non, pour des raisons politiques. Il faudra attendre 40 ans, et 40 ans de dénonciation, de meurtre, de sauvagerie, et se dire que les assassins sont encore en grande partie impunis. À où vont-ils se retrouver ces deux héros-là pour finir leur jour en gardant leur dignité et leurs idéaux ? Eh bien, à vous premièrement de lire cette très belle fresque et puis à vous de venir écouter l'auteur, Célie Bejarano, qui va nous présenter Justa ou la force du destin. C'est dimanche 17 septembre à 16h à Publico. C'est très intéressant parce qu'en plus il y a à la fin du livre, donc je ne vous le donne pas, un message politique qui est vraiment très fort à lire et à écouter. Frédéric, alors c'est vrai qu'on a présenté pas mal de livres. Tiens, à noter d'ailleurs que cette personne est à Lille. Est-ce qu'il y a une communauté espagnole à Lille importante ? Non, t'as pas idée ? Est-ce qu'on a une jeune stagiaire est en train de découvrir Publico, la radio, etc. Ça te dit quelque chose ou pas particulièrement, ça ?
Je dirais qu'il y a plutôt une communauté qui parle espagnol.
Ouais.
Qu'une communauté espagnole.
Ouais.
J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains et certaines, mais c'était plutôt d'Amérique du Sud, j'avoue.
D'accord, oui,
plutôt. Je dirais que la communauté espagnole, j'en ai pas vu vraiment.
D'accord. Alors, pardon, qu'est-ce qu'il y a, Fred ? J'entends rien, hein, c'est Fred et. Comment ? Un petit peu de musique, oui, tout à fait.
Костюмчик новенький, колесики со скрипом. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горе видел. И ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой, а мне сидеть еще 4 года. Душа болит, как хочется домой. Костюмчик новенький, колесики со скрипом. Я за тюремную холстину променял. За эти 8 лет немало горе видел, и ни один на мне волосик полинял. А на дворе хорошая погода, в окошко светит месяц молодой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой. А мне сидеть еще 4 года, душа болит, как хочется домой.
Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, question technique, c'est pas top top. D'autant que notre collègue qui devait nous présenter un livre sur les larmes de Chalamov ne répond pas, alors qu'elle devait être à l'antenne à 18h15. Pourquoi est-ce que nous avons passé ce morceau-là, cette musique? Eh bien, tout simplement parce que nous devions présenter un livre, l'un consacré à Chalamov, l'un des plus célèbres prisonniers politiques et écrivains de l'ère soviétique, Les larmes de Chalamov, et j'avais sélectionné ce chant tiré d'un disque qui s'appelle Chant du Goulag de Dina Vierny, et le titre c'est Le costume neuf. Et il y a comme ça dans ce disque toute une série de chansons qui racontent, alors qui sont très tristes, d'autres qui prennent beaucoup une forme d'humour et qui racontent les souffrances de ces personnes. Écoutez, je pense que nous allons passer, parce que oui, elle ne viendra pas, elle a peut-être eu des problèmes après tout, Dominique. Je voudrais terminer notre émission en parlant du monde libertaire. Vous savez qu'on a donc la Radio Libertaire, et on a un mensuel qui s'appelle Le Monde Libertaire. On a aussi, je le mentionnais tout à l'heure, un site internet qui s'appelle Le Monde Libertaire et qu'on appelle Le Monde Libertaire en ligne. Et nous avons un certain nombre de chroniques et de textes qui sont publiés sur ce site, qu'on ne retrouve pas dans la version papier, et au contraire des textes de la version papier que vous pouvez trouver sur le site internet. Écoutez, je voudrais simplement vous citer le titre de l'édito pour bien montrer que Le Monde Libertaire est un ouvrage, est une revue collective, puisque au nom du comité de rédaction du Monde Libertaire, Guénolé a repris une citation de Michel Bakounine, « Je ne veux pas être moi, je veux être nous ». C'est-à-dire que ce que vous allez trouver dans cette revue, eh bien, c'est le résultat de tout ce que nos amis, des militants, des associations, etc., nous ont transmis. Alors, le numéro qui est un numéro double, celui de juillet-août, est consacré aux littératures anarchistes. Il y a bien évidemment des pages consacrées aux luttes sociales, il y a des pages consacrées à la guerre, mais là, je voudrais souligner premièrement une présentation de la librairie Publico, et puis des interviews. Par exemple, nous avons une interview de Jean-Pierre Levaret, qui a écrit un livre « Comme si on domptait les machines ». Et ça, c'est sorti aux éditions Lapigne. Donc ça, c'est sur le monde de l'entreprise, le monde des relations avec les machines. Et puis des éditions. Alors, une maison d'édition que j'aime beaucoup, bon, je les aime toutes, hein, bien sûr, mais celle-là, je l'aime particulièrement parce qu'on avait commenté il y a peut-être six mois, un livre consacré à Nestor Makhno. On oublie souvent que Nestor Makhno était un révolutionnaire anarchiste au moment de la guerre en 1917-1919 et qu'il s'est battu contre les Russes blancs, après ça contre l'armée rouge, et c'est tout à fait intéressant de voir écrit par le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire insurrectionnelle d'Ukraine, c'est-à-dire l'armée de Makhno, toutes les routes, tous les combats, comment cela a été mené. Ensuite, Un livre que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime beaucoup, c'est La mémoire des vaincus de Michel Ragon. Michel Ragon, on aura l'occasion d'en reparler début octobre, mais il a publié un livre qui est vraiment son grand succès, La mémoire des vaincus, et qui raconte toute l'histoire, mais sous forme de roman, bien avec une littérature d'expression populaire, d'un héritier d'Henri Poulaille et autres. Il raconte toute cette histoire du mouvement ouvrier en Europe. Vous goûterez évidemment l'entraide, un facteur de l'évolution, de Pierre Kropotkine. Vous goûterez aussi un livre que vous êtes nombreux à connaître, sur Hommage à la Catalogne, d'un certain George Orwell, et enfin une maison d'édition que j'aime bien aussi, qui s'appelle les éditions L'Échappée. Alors, il n'y a pas que ces maisons d'édition, il y en a d'autres. C'est un numéro qui est vraiment très dense et que je vous invite à découvrir. Il y a même des commentaires de bandes dessinées, et ça, c'est bien. La BD, ça fait partie aussi des livres. On en parle assez peu dans cette émission. Il va falloir que nous corrigions ce défaut. Frédéric, est-ce que nous sommes en train de conclure notre émission? Donc, je pense que j'espère que malgré nos difficultés par rapport à la musique, que vous avez pu trouver un certain intérêt dans ces échanges, dans cette présentation. Je remercie encore Monique Pinson-Charlot pour son livre « Le méprisant de la République ».
C'est moi qui vous remercie.
Ah, c'est vraiment, on a vraiment passé un moment, je crois qu'on est là, on est tous très très contents là, voilà. Et puis c'est fini donc pour aujourd'hui. On se retrouve le mercredi 27 septembre. Nous recevrons Isabelle Felici pour son livre Brassens anarchiste, paru aux éditions Atland. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment, ni Dieu ni Maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, droite sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Nous avons nos matins blêmes et l'homme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Et quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis si certains s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent. Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir. Eh bien, voilà, on est à peine installé parce que, évidemment, d'une émission à l'autre, il faut prendre le temps de sortir et de rentrer et de s'installer. Voilà, eh bien, c'est la 30e émission pour cette année 2023 de Femmes libres et émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, en fait tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et ce soir, l'équipe, il y a Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et puis Marie-Jo dans le studio.
Ça fait bonsoir Hélène.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Marie-Jo.
Ouais, je suis loin.
Hein, voilà, loin.
Je suis quand même présente régulièrement, au moins par la voix.
Oui, tous les mois. Ouais. Voilà, l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, on peut aller sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. Évidemment, Femmes libres. Tout est au pluriel. Et on peut nous réécouter sur donc, le blog, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, 4 ans dans cette émission, on démarre malheureusement. Un jour, on aimerait dire « Eh ben, c'est fini, mais c'est pas fini encore. » Par les féminicides, par Compagnon ou Ex, la tribune libre de Marie-Jo sur le mépris de Godard et toi-même.
Voilà, c'est ça, c'est mon avis très personnel, mais bon, j'avais envie d'en parler.
Ensuite, c'est les journées du matrimoine, puisque le week-end prochain, du 15 au 17 septembre, eh bien, ça sera les journées du matrimoine en Île-de-France, dans d'autres régions, mais là nous parlerons que de l'Île-de-France. Et puis on terminera par des communiqués, particulièrement en soutien à Pinard Selec. Elle nous a envoyé une lettre que nous lirons, mais d'autres aussi communiqués. Voilà, on démarre par la première rubrique avec féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Metz. En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de
sa femme.